Alors, 6h04 minutes, nous sommes vendredi 14 mai. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, 12 degrés, ciel généralement nuageux, avec quelques périodes, comme on dit, mixtes au cours de la journée et faible risque d'averse durant l'après-midi. Ça me semble un peu ce qu'on a connu hier. On a eu un peu de pluie en toute fin de journée. Et c'est peut-être la même chose, avec peut-être des vents plus importants. Des vents de l'ouest de 20 à 40 km/h. Donc, le maximum aujourd'hui, 23 degrés. Et je vous le dis, pour la fin de semaine, ça s'annonce très bien. Samedi, c'est du soleil 23. Dimanche, ensoleillé 23. Et même lundi, là, on prévoit du 25 degrés. Puis la semaine prochaine, ça s'annonce une semaine assez chaude. Il y a même des journées à 27 degrés, 26 degrés. Alors, printemps-été. Après des journées et des nuits fraîches, là, on transite vers, disons, un corridor de soleil et de chaleur. Commençons d'abord par tout le dossier de la vaccination. Parce que quand je vous parle de météo comme ça, là, veux, veux pas, on a tous en tête des images d'activités extérieures, de, appelons ça, divertissement, de sport. Et on se dit, à quand l'annonce du plan par le gouvernement du Québec, le fameux plan de déconfinement. On sait qu'actuellement, on est à quoi, là? 46 % autour de ça, là, de Québécois qui ont reçu au moins une première dose du vaccin. Et on s'en va tranquillement vers le 50 % Et aujourd'hui, on élargit, donc les adultes Québécois, 18 ans et plus, peuvent se faire vacciner, peuvent prendre leur rendez-vous. Je vous disais tantôt que dans les pharmacies, il y a des doses additionnelles qui s'ajoutent, donc plus de disponibilité encore. Il y a une bonne réponse des Québécois. On le voit dans les groupes d'âge et même chez les plus jeunes, alors qu'on avait peut-être certaines inquiétudes, on se rend compte que ça marche. Et plus les Québécois vont se faire vacciner, plus collectivement l'immunité va s'installer. Mais c'est sûr que vous regardez ce mois de mai s'installer, puis là, vous vous dites, attends un peu, là. Je ne peux pas recevoir personne dans ma cour. Je ne peux pas m'asseoir à une terrasse extérieure d'un restaurant, par exemple. Ça commence à être difficile à tenir. Ce n'est pas un caprice, là. Je pense que c'est une nécessité pour bien des gens de pouvoir, finalement, socialiser. Puis je vous donne un exemple qui, sérieusement, là, c'est un propriétaire qui s'appelle M. Légaré sur sa page Facebook. Renaud Légaré, cantine du lac à Magog. Il est situé sur la rue principale. Et ça, c'est daté de mercredi. Il y a une plainte qui a été logée contre son restaurant parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les tables à pique-nique. On parle d'une cantine de 19 places. Alors, vous pouvez prendre votre lunch et manger sur les tables de la ville de l'autre côté de la rue, parce que ça, c'est permis. Tu vas chercher, pardon, ton lunch à la cantine. Et là, il faut que tu ailles l'autre bord, à la table à pique-nique. Mais la table à pique-nique qui est déjà aménagée ou s'il y a distanciation, ça, tu n'as pas le droit. Et il faut croire qu'il y a des gens qui ont porté plainte. Il faut le faire, là. Qui porte plainte pour... En tout cas. Et les exemples comme ça sont nombreux. Où des gens se disent, ben là, il fait beau, on est à l'extérieur, on s'assoit, on mange, on est quand même à distance. Et qu'on n'ait pas encore un signal précis du gouvernement du Québec, je ne dis pas là que ça commence demain, mais est-ce qu'on peut avoir un calendrier, un plan? Docteur Arruda sera avec nous tantôt, mais sérieusement, je pense que les gens ont besoin de ça, de pouvoir se retrouver, prendre l'apéro avec, et là, je ne dis pas 500 personnes, là, mais recevoir tes enfants, mettons, 6 dans le cours, demain, ils vont faire beau, faire un barbecue. Est-ce que c'est si problématique que ça? D'autant plus que, jetons un coup d'œil rapide à la situation aux États-Unis, où en termes de vaccination, on est rendu là avec 36 % des Américains pleinement vaccinés et quand on ajoute les gens qui ont une dose, on est à 47 % et c'est une cadence quand même beaucoup plus lente. Pour ce qui est de la vaccination, il y a des États où ça vaccine beaucoup, puis d'autres, il y a pas mal moins de clientèle. Eh bien, le docteur Fauci nous a dit hier, en réaction aux recommandations du CDC américain, si vous avez vos deux doses, vous pouvez très bien vous promener, pas de masque. Puis on va même jusqu'à dire, la règle du 2 mètres ne tient plus. Si vous avez vos deux doses, vous me direz comment on fait pour savoir si vous avez les deux doses. C'est toute la question de la preuve vaccinale, mais bon. Alors, ça veut dire reprendre des activités et le nombre de cas est en chute aux États-Unis. Ils ont vacciné quand même encore plus massivement qu'ici. Là, tu dis, on est OK, nous autres, là, avec une dose à 47 %, il y en a 36 % là-bas qui ont les deux doses. Il me semble qu'on pourrait avoir minimalement un plan de match pour savoir ce qui arrive avec ça. Et puis, parlons de l'AstraZeneca. C'est terminé pour la première dose. Là, il y a toute la gestion des nouvelles doses qui arrivent. Il y a des gens qui ont eu l'AstraZeneca, qui devraient avoir l'AstraZeneca comme deuxième dose. Santé publique dit, si vous prenez un autre vaccin que l'AstraZeneca, peut-être que les effets secondaires vont être un peu plus raides. Alors, c'est comme encourager les gens à prendre l'AstraZeneca. C'est un, je le disais hier matin, c'est un vaccin qui a pas très bonne réputation, invendable, disent plusieurs. Et moi, je connais des gens qui ont eu la deuxième dose, exemple de Pfizer, puis c'est le docteur quoi, je pense qu'il disait, la deuxième dose risque de cogner. Peux-tu vous dire que, dans le cas des gens que je connais, oui, ça a frappé. Puis de prendre une journée de congé quand on a la deuxième dose, exemple de Pfizer, de prévu, c'est peut-être une idée pas bête, parce que... Mais ça prouve au moins qu'il y a une action vaccinale puis qu'il y a une protection qui est en train de s'établir. Bon, parlons de la nouvelle mouture de la loi 101 qui a été présentée hier par le ministre Simon Jolin-Barrette. Il y a d'abord un consensus plus que large là, sur la nécessité de protéger et de promouvoir la langue française. Maintenant, quelle est la façon de faire? On va parler avec le ministre tantôt, puis également, je le disais, Denis Trudeau et Leslie Chesterman, qui sont des porte-étendards, si on veut, des figures importantes de la communauté anglophone. Mais, dans les mesures annoncées, je vous donne quelques mesures, il y en a beaucoup, là, parce qu'on touche à peu près à tous les secteurs. Là. Alors, je regardais ce matin, dans le cas des commerces, l'obligation de servir le client en français. Puis là, ils ont décider de ne pas aller sur la notion de bonjour aïe, là, qui, de toute façon, entre vous et moi, là, comment veux-tu gérer ça? Alors, j'ai le droit de me faire servir en français dans les commerces. Là, ce qu'on dit, c'est que s'il y a une plainte concernant un commerce où il n'y a pas ce service-là, on va accompagner le propriétaire pour l'amener à faire des correctifs. Et le citoyen pourra entreprendre un recours civil. Sérieusement, là, est-ce qu'un citoyen, avec les coûts que ça représente, va s'engager dans une poursuite personnelle contre un restaurateur ou n'importe quel type de commerce, là, un dépanneur où on n'a pas un service en français? On peut au moins poser cette question-là. On dit également, dans les entreprises, vous avez le droit de travailler en français. Très bien, normal, légitime. Comment, et c'est toujours ça des projets de loi avec de multiples facettes, comment on va déterminer que tel emploi, que c'est raisonnable que le patron te demande des connaissances en anglais? Actuellement, il y a de l'abus, c'est clair. Mais comment tu arrives à établir des paramètres? Les villes, on dit qu'il y a des villes qui ont un statut bilingue et qui, en raison des changements démographiques, ne sont plus bilingues. On va leur enlever le statut, mais les conseils municipaux peuvent voter pour le garder. C'est toujours un peu... bon. Et l'affichage, il faut que ça soit dominant, le français. Dans le cas des cégeps, on gèle le nombre de places. On sait qu'il y avait vraiment un débat. Est-ce qu'on applique la loi 101 au cégep pour dire tu termines, non pas au secondaire, quand tu es immigrant, tes cours en français, mais ça va aller jusqu'au cégep. C'est pas le cas. Puis là, c'est plein de vœux pieux, genre, ben, on va inviter les anglophones à aller au cégep, mais on va s'assurer qu'ils ont une maîtrise du français, mais en même temps, on va s'assurer que les francophones qui vont dans les cégeps anglophones ont une bonne connaissance du français. Fait qu'il y a beaucoup de ce type de mesures. Le premier ministre Legault dit que c'est un espèce de consensus, que c'est raisonnable, qu'il y aura une adhésion. Il n'y a pas personne qui va déchirer sa chemise ce matin, là, j'ai pas vu, là. Il y a peut-être des gens pour qui, je regardais dans deux gazettes, cette espèce de réaction sur les droits individuels, les droits collectifs. Mais il y a une phrase qui revient beaucoup, et elle est juste à mon point de vue. Des immigrants qui ne parlent ni anglais, ni français, mais souvent, quand ils ne parlent pas le français, ils parlent leur langue d'origine, puis ont quelques notions d'anglais. Puis j'ai eu beaucoup de courriels hier de témoignages dans ce sens-là. Mais la première génération a plus de difficultés à s'intégrer puis à apprendre le français. Puis là, je le sais, on va donner des cours, même à des Anglos qui sont ici et qui ne parlent pas français. Mais la deuxième génération, elle, par ce qu'on appelle l'école, les enfants de la loi 101, maîtrise le français. Mais c'est pas parce que tu connais le français, que tu maîtrises le français, que tu es capable de vivre en français, que tu vas vivre en français. On ne demandera pas à des immigrants, là, on n'ira pas mettre le nez dans leurs affaires puis dire ce soir, lors du repas familial, quelle est la langue? Parlez-vous en anglais entre vous? Parlez-vous votre langue d'origine? Parlez-vous le français? Beaucoup vont le faire, mais tu peux réglementer, encadrer puis dire l'affichage, les communications entre l'État, la langue de travail, la langue dans les commerces. Mais ce qui se passe dans la vie des gens, c'est bien difficile. Tu peux faire la promotion, tu peux les inciter, tu peux rendre ça attrayant. Et c'est souvent une question de temps pour y trouver une adhésion. Et je vous le dis, beaucoup de courriels, par exemple, de gens qui ont immigré il y a 20 ans au Québec, puis j'en ai vraiment d'un peu partout, des gens qui ne parlaient pas français et qui ont appris tout en travaillant le français, mais qui voient leurs enfants maîtriser le français et avoir des emplois quand même plus qu'intéressants. Alors, on va vous parler de ça tantôt. Maintenant, autre dossier qui est quand même pas piqué des verres, Justin Trudeau sur l'affaire We Charity. Alors, on sait, là, c'est un organisme qui a bénéficié des faveurs du gouvernement fédéral. On avait même choisi une firme de relations publiques nationales dans le cadre de l'opération de We Charity au Québec, là. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça venait faire là-dedans? Alors, le commissaire à l'éthique dit que M. Trudeau n'a pas commis de faute. On reprochait notamment à la famille Trudeau d'avoir bénéficié de certains cachets pour des activités. Et là, on cite M. Dion, qui est le commissaire, « Bien que le lien entre les proches de M. Trudeau ait donné lieu à l'apparence d'un conflit d'intérêts, l'apparence ne veut pas dire qu'on enfreint les règles. » Donc, ce programme avait un budget de 900 millions, puis on avait donné ça aux amis de M. Trudeau pour justement encourager le bénévolat pendant la pandémie. Un qui se fait ramasser, par contre, c'est l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau, qui, lui, nous a expliqué qu'il y avait des liens puis qu'il y avait eu des voyages de famille et que M. Morneau avait, à un moment donné, oublié qu'il devait une coupe de 10 000 à l'organisation. Bref, le commissaire nous dit, dans son cas, c'est sûr qu'il est sévèrement blâmé parce qu'il s'est placé en position de conflit d'intérêt. Également, Pierre-Carl Péladeau qui décide de ne plus faire de proposition pour l'achat de Air Transat. En un mot, ce qu'il dit, c'est que quand le principal actionnaire, plus important, te dit qu'une proposition à 5 piastres, ça ne l'intéresse pas, bien, tu ne te casses pas la tête parce que ça ne vaut pas plus que ça. Alors, on se rappelle que c'était un projet personnel, c'était pas le projet de Québécois. M. Péladeau dit « j'abandonne ». Lui qui, d'ailleurs, fort occupé ces jours-ci en occupant la présidence par intérim de TVA et la présidence de Vidéotron, c'est quand même pas banal, Alors, on va lui parler un peu plus tard ce matin. Et je rappelle entre-temps qu'à Gaza, la tension demeure extrêmement élevée. Contrairement à ce qu'on a entendu hier, il n'y a pas eu d'invasion terrestre, dit-on, du côté israélien, mais il y a des milliers de soldats qui ceinturent. Et on se demande, est-ce qu'on est passé dans un mode de guerre plus psychologique ou c'est comme une espèce, si on veut, appelons ça d'accalmie avant une reprise des hostilités. Mais un des problèmes, c'est que ça déborde dans d'autres villes et d'autres coins du pays. Ça nous conduit à 6h21, la métropolitaine, Marc.